Nous sommes déjà à cette deuxième partie de l'émission Gris du temps, Destination Bonheur. Avec nous, Pierre Chastonnet, qui a bien voulu accepter de venir une fois de plus cette semaine. Je ne peux pas ne pas vous parler du développement du planétarium de Montréal. Mm-hmm. C'est un endroit qui commence à vieillir beaucoup, qui date de 1966.
Il ne fait pas juste commencer à vieillir, il est déjà vieux.
Le projecteur a quelques ratés, dit-on.
Ouais.
L'édifice est aussi mal situé, n'est pas nécessairement situé dans un secteur à haute fréquentation. Mais tout cela va changer prochainement, dit-on.
Oui, d'ici 2012. Je connais pas exactement la date d'ouverture, mais c'est prévu pour le printemps 2012. Nous devrions être en mesure de vous accueillir, ainsi que tous vos auditeurs, dans le nouveau planétarium de Montréal, le planétarium Rio Tinto Alcaire de Montréal, qui va être construit tout près de la tour du stade olympique et du biodôme. Donc, si vous imaginez la tour du stade, la base de la tour ainsi que le biodôme, on va être la troisième pointe du triangle, si vous voulez.
Et il y a là aussi l'insectarium.
Ben, juste en haut de la côte, en passant sous la rue Sherbrooke, et il y a un sentier d'accès qui va être aménagé pour y aller. Il y a l'insectarium et le jardin botanique. Donc, vous allez avoir à moins de 750 mètres les uns des autres, quatre musées de sciences qui sont parmi les meilleurs au Canada, sinon au monde. En fait, le secteur des Muséums Nature Montréal, puisque c'est de ça dont il s'agit,
oui,
va être le plus grand ou un des plus grands sites touristiques dédiés aux sciences en Amérique du Nord, sinon dans le monde.
Donc on est en train de créer
ça pour Montréal.
C'est cela, un carrefour science.
Exactement, exactement. Un pôle scientifique très important.
Au plan touristique, il y a là un intérêt, mais au plan, on disait, susciter des carrières en sciences.
Exactement.
Quand on a un pôle d'une telle importance, je présume qu'à moyen et long terme, il y a des conséquences positives.
Tout à fait. Et puis, je voudrais revenir un peu là-dessus parce que j'ai peut-être laissé croire qu'il y avait vraiment il y a un problème, effectivement. On manque de scientifiques, on manque d'ingénieurs, on manque de technologues au Québec. Mais le niveau de culture scientifique générale de la population, lui, il augmente. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que je voudrais pas donner l'impression que il faut absolument faire des sciences pour réussir.
Non,
c'est pas ce que
pas.
Je dis. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il faut avoir un intérêt minimal pour les sciences parce que la science a un impact, la science et la technologie ont un impact sur à peu près tous les aspects de notre vie. Autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue social. Et il y a des très grandes décisions qu'il faut prendre. La crise des isotopes, certains traitements médicaux qui sont ou non offerts, des décisions au niveau de l'environnement, par exemple, qui demandent une compréhension minimale des enjeux scientifiques et technologiques. Alors, ça prend une population qui est capable de comprendre de quoi il s'agit pour prendre des décisions éclairées. C'est une question de démocratie. C'est pour ça que l'enseignement des sciences et la culture scientifique en général a une telle importance. Et là, je suis heureux de dire que avec la construction du nouveau planétarium près des autres muséums nature, on va offrir à la population montréalaise, québécoise, canadienne, nord-américaine et mondiale un pôle scientifique extrêmement important, qui va justement contribuer au rehaussement et au maintien et au développement de la culture scientifique de la population en général et en particulier des jeunes. Parce que bien sûr, prenons l'exemple du nouveau planétarium de Montréal, on va s'adresser aux jeunes de 7 à 77 ans et plus ou moins 3, on peut commencer à 2-3 ans à venir au planétarium. Mais on va avoir aussi une attention particulière pour les groupes scolaires qui nous visitent. Les technologies que nous aurons dans ce nouveau planétarium et dont on pourra reparler dans quelques instants vont nous permettre de créer des programmes qui vont être très, très, très collés sur les objectifs ou les savoirs essentiels, concepts prescrits qui sont dans le programme de formation de l'École québécoise. Donc, un professeur qui, par exemple, veut étudier avec ses élèves de la fin du primaire les phases de la Lune, ben, pour revenir au planétarium de Montréal, réservé pour une séance, et là, avec l'animateur, les jeunes vont pouvoir regarder la Lune dans le ciel, puis même aller sur la Lune pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque les phases changent, s'en aller sur un point dans l'espace situé à l'extérieur de l'orbite de la Lune pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque la Lune tourne autour de la Terre. Cette capacité de varier les points de vue va être un outil absolument formidable pour expliquer ces concepts dont je vous parlais la semaine dernière, qui sont parfois difficiles à comprendre parce qu'ils demandent une vision tridimensionnelle de plusieurs objets qui sont en interaction les uns avec les autres. Le nouveau planétarium va nous permettre de faire ça en bougeant une souris devant un écran d'ordinateur.
Vous avez été un ardent défenseur de cette transformation du planétarium actuel vers la création de ce nouveau planétarium. Vous y croyez parce que je me souviens, déjà il y a 10 ans, on en parlait.
Ça fait même plus longtemps que ça qu'on en parle parce que...
Mais vous avez poussé très fort sur ce projet.
Pierre Lacombe, qui est le directeur du planétarium de Montréal, et moi-même et plusieurs autres personnes ont reconnu relativement... Il y a relativement longtemps qu'il fallait absolument faire quelque chose, sinon le planétarium allait éventuellement mourir de sa belle mort. Et évidemment, nous ne voulions pas ça, puis on sentait qu'il y avait une volonté dans la population. Les gens apprécient le planétarium, ils y ont de bons souvenirs, ils y reviennent régulièrement, et on sentait qu'il y avait un support du côté de la population. Et donc, on a commencé à lancer l'idée de déménager le planétarium, parce que comme vous l'avez dit, la localisation actuelle en périphérie du centre-ville, en périphérie du Vieux-Port, cette localisation-là nous dessert. Les gens ne viennent pas au planétarium spontanément, à moins d'être passionnés. Souvent, ils passent devant par hasard et ils s'arrêtent, mais on ne peut pas créer de synergie avec d'autres lieux muséaux, comme ça va être le cas lorsque nous serons près du biodôme, du jardin de l'insectarium. Donc ça, c'est déjà un point important. L'investissement technologique que l'on devait faire de toute manière parce que les projecteurs tombent en morceaux. Écoutez, on utilise encore des projecteurs à diapositives. C'est une technologie qui n'existe plus. On doit faire nos diapos aux États-Unis parce qu'il n'y a plus de fournisseurs au Canada. Les montures dans lesquelles on installe le film diapositive, ces montures-là, et puis personne n'en fabrique. Alors, c'est vraiment une technologie qui est...
On est dépassé, là, littéralement.
Ça ne veut pas dire que nos spectacles ne sont pas encore intéressants. Non, et j'invite les gens à continuer à venir nous voir,
bien sûr.
Mais ceci étant dit, on a très hâte de migrer vers ce nouveau lieu parce que nous aurons là une technologie qui va être absolument extraordinaire, out of this world.
Alors, on va parler de cette technologie tout de suite après l'audition. Si j'évoque pour vous Mozart, ça vous fait surgir une image en particulier?
Ça me fait penser au film Amadeus.
Oui.
J'aime moins Mozart que Bach, mais il y a des choses absolument formidables.
On va y revenir plus tard à Bach, mais pour l'instant, puisque vous parlez d'Amadeus, il y avait une série française qui avait pour titre tout simplement Mozart et dont le thème était le mouvement lent du concerto pour piano numéro 23. Alors, c'est ce que nous entendons. Et on parle ensuite de la nouvelle technologie de ce nouveau planétarium.
Avec plaisir.
Mozart, c'est peut-être pas Bach, mais c'est quand même...
Mais c'est pas mauvais, là!
C'est pas mauvais! Nouveau planétarium 2012, Horizon 2012. Voilà. Quand on parle de nouvelles technologies, là, vous aviez un projecteur Zeiss qui date d'une époque, de plus de 40 ans, quand même.
Oui, tout à fait. En fait, les gens de Zeiss en Allemagne n'en reviennent tout simplement pas que cet instrument-là fonctionne encore. Faut dire que...
Donc, c'était un bon instrument.
C'était un bon instrument. Il était très bien entretenu. L'équipe technique du planétarium a fait un travail absolument formidable. Absolument. Mais malgré qu'il soit bien entretenu, il y a des problèmes électriques, des problèmes mécaniques. Il y a parfois au beau milieu d'un spectacle des flamèches qui tombent du projecteur parce qu'il vient d'y avoir un court-circuit. Donc, ça arrive et il faut vraiment qu'on passe à autre chose.
Je fais juste une parenthèse. Quand moi, j'étais jeune, je me souviens, moi, de l'inauguration du planétarium.
Avec le maire Drapeau à l'époque.
Oui, et j'y allais, de façon régulière. À chaque fois qu'il y avait un nouveau spectacle, mm-hmm. on descendait plusieurs amis. Il fallait aller au planétarium. Je me souviens d'un monsieur qui avait pour nom Jacques Lebrun, qui n'était pas un scientifique, un autodidacte.
Premier directeur du planétarium.
Et qui faisait un travail extraordinaire de vulgarisation parce qu'il avait appris par lui-même et avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler par la suite. Un homme formidable, d'une grande gentillesse, aujourd'hui décédé. Mais tout ça pour dire que ce planétarium a quand même eu ses heures de gloire.
Absolument.
Et le prochain, j'imagine que vous souhaitez qu'il ait aussi ses heures de gloire avec une technologie à la fine pointe des développements récents. Ça veut dire quoi?
Oui. Juste avant de répondre à votre question, parlant du projecteur Zeiss, qui est le projecteur central du planétarium, on le garde parce que c'est un instrument qui nous a tellement bien servi. Oui. Il y a tellement d'histoires attachées à cet instrument-là qu'il s'en vient avec nous dans le nouveau planétarium et il sera
comme
dans
pièce de musée.
Il sera dans le hall d'accueil et il sera mis en évidence et présenté au public.
Et ce que j'allais dire là-dessus, c'est que quand j'étais jeune, effectivement, ce projecteur, quand on est tout petit, c'est un mastodonte.
Absolument.
Et il nous impressionnait. On voyait bouger ce robot, parce que pour nous, c'était un robot. Et on était fascinés par cet appareil qui ressemblait à une grosse fourmi, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et ça a encore le même effet avec les jeunes visiteurs qui viennent ces jours-ci au Planétarium de Montréal. Et donc, il reste avec nous. C'est pour nous le cœur du Planétarium.
Alors, parlons donc de la nouvelle technologie.
Alors, le Planétarium de Montréal aura deux dômes. Et non pas un seul. Ce seront deux dômes de 18 mètres de diamètre, donc légèrement plus petits que le théâtre actuel du Planétarium de Montréal. Et nous aurons à l'intérieur de ces deux dômes-là des technologies hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ben, c'est que nous aurons encore un projecteur central, optomécanique, qui sera peut-être pas un projecteur Zeiss, qui sera peut-être, parce qu'il existe d'autres compagnies qui fabriquent des projecteurs d'étoiles. Le choix n'est pas encore arrêté sur la technologie. On attend à la dernière minute pour prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché.
Bien sûr.
Un domaine qui évolue très rapidement, donc plus on attend, mieux c'est. Mais il y aura quand même un projecteur d'étoiles. Et la caractéristique de ces nouveaux projecteurs optomécaniques, c'est que la technologie qu'ils utilisent permet de reproduire un ciel tellement vrai que vous pourrez venir au planétarium avec des jumelles ou un petit télescope et vous verrez à travers votre instrument plus d'étoiles que ce que vous voyez à l'œil nu. Exactement comme lorsque vous allez à la campagne sous un vrai ciel. Vous pourrez observer des objets messiers, des galaxies, des nébuleuses, des étoiles doubles, exactement comme vous le feriez à la campagne avec un petit instrument d'astronomie amateur.
Est-ce que le dôme sera plus gros, plus grand?
18 mètres, donc 2 mètres de moins en diamètre que le dôme actuel. Mais ça paraît pas tant que ça.
Non?
Non, ça fait pas de différence. On en a vu à Boston des dômes de 18 mètres, puis on a la même impression de vastitude, si vous me permettez l'expression, que dans le théâtre actuel.
Et si on compare avec ce qui existe maintenant dans le monde au plan du réseau des planétariums, nous serons donc à la fine pointe.
Ah, tout à fait. On va être dans les ligues majeures avec Chicago, New York, Los Angeles, San Diego. Bref. En fait, on va probablement être le meilleur planétarium au moment où nous inaugurerons, jusqu'à ce que le prochain inaugure avec peut-être des projecteurs de meilleure qualité, parce qu'encore une fois, c'est une technologie qui évolue tellement rapidement qu'à tous les 6 mois, il y a des nouveaux projecteurs qui arrivent sur le marché qui font un peu plus que leurs prédécesseurs.
Est-ce que vous aurez encore aussi ces modules interactifs tout le tour lorsque les gens entrent au planétarium?
Il y a
un aspect éducatif aussi là-dedans.
Il y aura un espace d'exposition qui va être un espace exposition, halle d'accueil, salle des pas perdus, salle d'attente en attendant que les gens entrent dans le théâtre. Et là-dedans, ce qu'on espère offrir aux gens, c'est une expérience. On veut s'éloigner un peu des modules interactifs où on touche un écran puis il y a quelque chose qui roule en boucle. On veut vraiment que les gens puissent interagir avec le contenu de façon beaucoup plus approfondie que ce qu'on voit normalement dans les musées. Et l'objectif, c'est de donner une espèce de cours d'astronomie 101 à nos visiteurs pour qu'ils sachent c'est quoi la différence entre une nébuleuse et une galaxie, entre une lune et une planète. Dans le fond, pour qu'ils aient un minimum de connaissances, mettre tout le monde à niveau pour que quand ils arriveront dans le théâtre, le vocabulaire va leur être déjà familier. C'est un peu l'objectif. Si on revient au théâtre, je vous parlais du projecteur optomécanique, mais je vous ai parlé que c'est un système hybride. Parce qu'en fait, il y a le projecteur optomécanique qui reproduit le ciel étoilé tel qu'on le voit de la surface de la Terre, du pôle Nord au pôle Sud, présent, passé, futur. Mais il y a d'autres projecteurs qui, eux, sont des projecteurs vidéo, qui couvrent l'ensemble de la voûte, l'ensemble du dôme. Et ces projecteurs-là travaillent en synchronisation avec le projecteur automécanique. Alors, si par exemple, je vous présente le ciel de ce soir et que je veux vous montrer où se trouve la Grande Ourse, je peux faire appel au projecteur vidéo, au système vidéo, pour qu'il projette le dessin de la Grande Ourse sur la région du ciel où se trouvent les étoiles du chaudron. Et si je mets le ciel automécanique en mouvement, le projecteur vidéo le suit.
Donc, une grande flexibilité au plan des présentations.
Une flexibilité incroyable parce que...
Et de la création aussi, parce que vous êtes probablement limité que lorsque vous créez des spectacles, lorsque vous écrivez des spectacles.
Écoutez, actuellement, on est limité parce qu'on peut pas mettre plus que 90 diapositives dans chacun de nos projecteurs, parce que on ne peut présenter que des images fixes. Une diapositive, ça ne bouge pas. Alors que le système dont je vous parle, oublions le projecteur optomécanique et concentrons-nous sur la partie vidéo. Ben, mon écran, donc le dôme au-dessus de ma tête, devient un immense écran vidéo sur lequel je peux présenter n'importe quoi. Des images de synthèse, du vrai film, du vrai cinéma qui aurait été tourné, par exemple, avec une lentille fisheye, une lentille 180 degrés. Les images de synthèse, ça peut être de naviguer dans une base de données astronomique. Alors, imaginez que je suis l'animateur du prochain spectacle. Vous entrez dans la salle, je dis « Bonjour, Monsieur Dubois, je m'appelle Pierre Chastenay. Où voulez-vous aller aujourd'hui? » Et là, je peux vous amener sur la galaxie la plus lointaine. Je peux vous amener au cœur de la nébuleuse d'Orion.
Vous feriez cela, vous?
Ah, avec plaisir. Je peux vous faire faire le tour de la Voie lactée. Je peux vous amener près d'un trou noir pour voir comment est-ce que l'univers est déformé autour de ces objets-là. Tous ces objets-là et toutes ces possibilités existent parce que j'ai accès, via le système de projection vidéo, à une énorme base de données astronomiques, des millions et des millions d'étoiles dont la position est connue très précisément, des nébuleuses, des galaxies, jusqu'aux confins de l'univers. Tout ça est accessible avec un petit trackpad qui ressemble un peu à un ordinateur de poche où je peux appeler des sous-routines, dire ben, j'aimerais ça aller à tel endroit, l'ordinateur nous y amène. Et tout ça se fait en temps réel, de façon immersive, avec les images projetées sur le dôme au-dessus de la tête du spectateur.
J'imagine que vous avez très hâte. C'est confirmé, là. On parle vraiment de l'horizon 2012.
Ah oui, au moment où on se parle, ça fait longtemps qu'on travaille avec les architectes. On est en train de préparer le devis, les appels d'offres pour tous les éléments du bâtiment. Bientôt, on travaillera sur les devis, les appels d'offres pour les équipements également. Donc, c'est très, très avancé, là.
Et deux mots, le plus beau planétarium que vous avez visité...
Jusqu'à présent, au moment où on se parle, c'est celui de Nashville. États-Unis, Nashville, Tennessee. Mais c'est là que j'ai vu pour la première fois le système hybride fonctionner. Et donc, j'avais ce ciel absolument merveilleux. On avait des jumelles. On voyait effectivement la Voie lactée. C'était une constellation d'étoiles. C'était pas juste une bande blanchâtre projetée comme une diapositive. Et puis, on voyait aussi les projections, le système de coordonnées astronomiques projeté par le système vidéo. Et les deux se mariaient à merveille. On bougeait un peu le ciel. Le vidéo bougeait. C'était impeccable.
Alors maintenant, je vous amène dans votre univers, celui de Bach. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier qui, quand on parle de Bach,
mon Dieu,
le répertoire
concerto pour deux violons, toutes les pièces au piano que Glenn Gould a en disqué.
Alors, il y en aurait trop. Alors, on va vous faire plaisir parce qu'on va vous faire entendre le premier mouvement du concerto, d'un des concertos pour violon de Jean-Sébastien Bach.
Merci beaucoup.
Pierre Chastenay, astronome au Planétarium de Montréal, qui est avec nous pour une deuxième semaine et qui nous parlait de ce merveilleux projet d'un nouveau planétarium, Horizon 2012. Mais si on faisait référence au passé, l'année dernière, c'était l'année de l'astronomie.
L'année mondiale de l'astronomie.
Qu'est-ce que ça a donné cette année-là?
Ça a été une année absolument formidable. Beaucoup, beaucoup de travail. Pas seulement de moi et de l'équipe du Planétarium de Montréal, mais de tous les astronomes amateurs du Québec et du Canada. Et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, je les remercie, je les félicite encore. Ces gens-là se sont impliqués d'une façon absolument extraordinaire dans un projet qui était un peu fou, et puis un objectif qui était très ambitieux, qui était celui de permettre à 1 million de Canadiens d'observer le ciel au télescope durant l'année 2009. 1 million de Canadiens, c'est beaucoup de monde. Quand vous faites des soirées d'observation comme astronome amateur, vous avez l'habitude d'avoir 10 à 15 personnes qui viennent observer à travers vos instruments. Ben, pour atteindre 1 million, il faut en faire plusieurs de ces soirées-là. Et l'objectif a été atteint. Ça s'est fait de façon extraordinaire par des soirées d'observation. On en a organisé nous-mêmes au Planétarium de Montréal, devant le bâtiment du Planétarium. On a fait la tournée des parcs de l'île de Montréal. On est allé jusqu'à Granby avec l'OSM.
Donc, on a réussi à susciter l'intérêt à l'égard de l'astronomie.
Je pense que les gens ont eu l'occasion, je parle du public en général, oui. Le public a eu l'occasion de vivre une expérience significative en astronomie qui consistait à regarder Saturne ou la Lune ou Jupiter ou Vénus à travers un télescope. Et pour plusieurs, c'était la première fois. Et c'est toujours extraordinaire de voir quelqu'un qui regarde à travers un télescope pour la première fois, qui voit les cratères sur la Lune tellement clairs, tellement grossi par l'instrument, oui, qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient étendre le bras et y toucher.
Voilà.
La première fois qu'on voit les anneaux de Saturne au télescope, je me souviens que c'était un événement mémorable dans ma vie quand j'ai vu Saturne. Puis pourtant, j'avais vu des photographies avant, des photographies
de
sondes
spatiales. Mais de le voir réellement.
Mais là, elle était là au bout, oui, du télescope. La lumière était dans mon œil. C'est toujours un événement formidable. Alors, il y a plein de gens au Canada qui ont vécu cet événement-là en 2009. Est-ce que ça va se traduire par un regain d'intérêt pour l'astronomie? Est-ce qu'on va se mettre à voir plus de livres vendus dans les librairies? Est-ce qu'on va voir plus de gens visiter les planétariums? Il est trop tôt pour le dire. Mais c'est certain que les gens ont été exposés à cette science-là d'une façon intime et personnelle au cours de l'année 2009.
Et vous-même, vous avez participé ici même à cette antenne, à l'émission du matin, à faire de la vulgarisation, de la sensibilisation à l'égard de l'astronomie.
J'ai fait aussi une tournée de conférences qui m'a amené à Rouyn-Noranda, en Gaspésie, à Rivière-du-Loup, en Beauce, à Québec, à Montréal. Alors, puis encore une fois, je suis pas le seul. Il y a plusieurs autres astronomes professionnels. Je pense à Robert Lamontagne, Pierre Lacombe, qui ont fait comme ça des conférences un peu partout au Québec et qui, dans le fond, en ont profité pour aller rencontrer les amateurs et rencontrer le public qui est invité par les amateurs et puis à porter le message. Levez les yeux au ciel. Le ciel est là. Il s'agit de le regarder.
Une belle année, quoi. Et je m'en voudrais de ne pas vous poser la question avant qu'on termine parce que le temps file rapidement. S'il y avait une quête au plan scientifique quand il est question de découverte, on parle de cette loi universelle qui rallierait toutes les lois de la physique.
La théorie du tout.
Oui. Est-ce que c'est possible, selon vous? Est-ce que actuellement les astronomes travaillent sur des projets particuliers? Où en sommes-nous?
Écoutez, il y a tellement de recherches qui se fait dans tous les domaines, que ce soit en physique, en chimie, en astronomie, qu'en choisir une, ce serait faire injure à toutes les autres. Mais moi, personnellement, il y a une quête qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de la vie dans l'univers. Et je pense que nous sommes pas très loin d'avoir des éléments de réponse qui vont nous dire si effectivement il y a de la vie dans l'univers ou pas. Que ce soit l'exploration de Mars, l'exploration d'Europe, qui est une lune de Jupiter, où il y aurait aussi une possibilité que la vie soit apparue. Je pense bien sûr aux planètes extrasolaires, ces planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est prêt? Est-ce que ce sera la présence de découvertes d'acides aminés ou le fait qu'on a découvert des planètes extra-système solaire? Ou
des planètes extrasolaires qui ressemblent à la Terre,
oui,
dont on sera éventuellement capable d'analyser l'atmosphère et peut-être de découvrir dans l'atmosphère de l'ozone, de la vapeur d'eau, de l'oxygène, du
méthane. Ce serait une découverte extraordinaire.
Qui sont sur Terre les produits de l'activité biologique. C'est qu'encore une fois, pour l'instant, nous sommes la seule planète, la Terre est la seule planète sur laquelle nous savons qu'il y a de la vie. Il y a deux possibilités. Soit que nous sommes seuls dans l'univers, ou soit que l'univers foisonne de vie. Mais pour l'instant, c'est plutôt l'hypothèse « nous sommes seuls » que la science semble supporter, puisqu'on n'a pas d'exemple ailleurs. Il s'agit qu'on trouve l'exemple d'une autre planète, Mars, Europe, une planète extrasolaire sur laquelle il y a de la vie, pour que là, ça fasse deux exemples. Et dans l'univers, deux exemples, c'est la règle. Alors, c'est pour ça que cette recherche est si importante.
Alors, c'est fascinant tout cela. On termine avec votre chansonnier favori au Québec.
J'aime beaucoup Richard Desjardins.
Le voici.
Je dois retourner vers le nord. l'un de mes frères m'y attend. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Sur un traîneau géant, les exploiteurs se font pesant. Faudrait rapporter du soleil,
rapporter du soleil,
de la chaleur pour les enfants, flatter les chiens du vieux chasseur, boire avec lui un coup de blanc.
Richard Desjardins qui interprétait Le Labrador, une chanson de Claude Dubois.
Très bon choix.
Alors, ça va mettre un terme à cette émission. On revient sur Terre, en quelque sorte. Le Labrador, c'est aussi les grands espaces.
C'est drôle parce que le Labrador, l'Arctique canadien, est un des endroits sur Terre qui ressemble le plus à la planète Mars. Et d'ailleurs, il y a sur l'île Devon et l'île Houghton, qui sont deux îles situées dans l'Arctique canadien. L'île Axel Iceberg, par exemple, je me suis trompé. Bref, ces deux îles-là sont des endroits où les gens de l'Agence spatiale canadienne, les gens de la NASA, vont pour tester des systèmes qui éventuellement pourraient être envoyés vers Mars, que ce soit des sondes robotisées ou alors des espèces de kits de survie pour êtres humains sur la planète rouge. Alors, le Nord canadien a une connexion directe avec la planète Mars, je pense.
Alors, Pierre Chastenet, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. Si je vous posais comme dernière question vos projets immédiats.
Une éclipse totale de soleil en juillet dans le Pacifique Sud.
Vous y serez?
J'y serai.
Est-ce que
si
ce
tout
sera
va bien.
Est-ce que ce sera votre première?
Ça va être ma première.
Paraît-il que c'est fascinant. Paul Oud qui...
Paul Oud est un grand chasseur d'éclipses. Oui. En fait, tous ceux que je connais qui en ont vu une... n'ont de cesse que d'en voir une deuxième et une troisième, et ils deviennent des chasseurs d'éclipses. Alors, est-ce que je serai moi aussi accroché? Probablement. Alors, ça risque d'être la première d'une longue série.
Alors, où précisément irez-vous la voir?
Ce sera sur une île de l'archipel de la Polynésie française.
Oh là là! Et vous y allez par vos propres moyens, à la nage?
Non. En fait, on se rend à Tahiti, et de Tahiti, il y a un avion qui nous amène sur un petit atoll qui est en plein centre de la bande de totalité. On a quelque chose comme 4 minutes 30 de totalité.
Ce ne sera pas visible ici. Là.
Non, cette éclipse, c'est visible que du Pacifique Sud. En fait, la prochaine éclipse totale de soleil qui va être visible du sud du Québec, c'est en 2024.
Alors, ça nous laisse encore quelques temps pour nous préparer.
Mais si vous ne voulez pas attendre, ben là, il s'agit simplement de regarder. À chaque année, il y a au moins deux éclipses totales de soleil qui sont visibles de certains endroits de la surface de la Terre.
Donc, et des éclipses de lune, est-ce qu'il y en aura prochainement au Québec?
Écoutez, de mémoire, là, vous me posez la question
une bonne colle.
Une bonne colle, exactement. Mais allez sur le site du Planétarium de Montréal et on publie à tous les mois une carte du ciel avec les informations. S'il y a une éclipse, on en parle, c'est sûr.
C'était la raison de ma question. Je voulais vous permettre de parler de votre site. Alors, ouais. Il y a plein d'informations sur le site du Planétarium.
www.planétarium.montréal.qc.ca. Cherchez-nous dans Google, Planétarium de Montréal, vous allez nous trouver.
Et si on a envie d'aller voir des spectacles, ben, il y en a aussi de très beaux au Planétarium. On n'attend pas 2012 parce que le Planétarium fonctionne toujours.
En fait, venez nous voir dans le Planétarium actuel et revenez nous voir en 2012. Ça vous permettra de mesurer tout le chemin qu'on aura franchi.
Monsieur Chastenet, encore une fois, grand merci pour ces deux belles semaines qu'on a passé avec vous, ça a vraiment été extraordinaire.
Je vous en prie.
Merci. C'était l'émission Au gré du temps, Armand Dubois au micro, émission réalisée sous la supervision de Joe Pacheco. Pierre Chastenet était avec nous cette semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, passez-en une excellente. Au plaisir, au revoir.